Alors, est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent spontanément de cette foule déchaînée par cette dernière conférence? Oui, là, au quatrième rang, la parole est à vous. Alors, oui. Ah voilà, un micro vous arrive.
Oui, alors, ça tombe bien parce que c'était une question que je voulais aborder avec Laurence Sturz, mais vous avez parlé des partenaires sur les événements, et vous avez évoqué le nom de quelques acteurs. Comment vous faites pour contraindre effectivement des gros partenaires privés? Vous les avez cités, hein. On a parlé du Tour de France avec Vittel, ça pourrait être Perrier, Roland-Garros. Comment on fait pour qu'effectivement, parce que ça crée du déchet, même si on les recycle, ça en crée, comment on fait pour changer cela? Et c'est une grosse manne financière, on le sait, pour les organisateurs d'événements sportifs. Mais c'est un vrai sujet en même temps.
Merci. Alors, il y a deux façons de faire. L'outil nouveau, la comptabilité extra-financière, va nous permettre d'avancer. C'est créer de la valeur. Et la valeur, elle est dans plusieurs domaines. Et cette comptabilité extra-financière est une partie peut justement montrer la valeur que l'on crée qui n'est pas visible dans la comptabilité classique. L'économie circulaire nécessite de toujours aller chercher plus de valeur sur la ressource mobilisée ou sur la ressource non mobilisée. Ben, j'ai créé de la valeur parce que je n'ai pas gaspillé de la ressource. Voilà, c'est très
symbiotique.
Théorique, mais on y travaille. Mais j'invite très souvent, notamment dans une question de boucle produit, matière, à faire en sorte que jamais on ne perde la valeur élevée de la matière. Si on reste sur la bouteille PET, si elle venait à être perdue dans la nature, on perd toute la valeur de ce qu'elle est. Dans les ordures classiques, dans les ordures ménagères, dans la poubelle classique, elle n'a plus de valeur, elle a toujours un coût. Elle est triée à la maison, un faible coût, elle est apportée dans consigne, tout à l'heure les enfants en ont parlé. On garde la valeur élevée puisqu'il n'y a pas de mélange de matière et que derrière on a un acheteur qui paiera très cher une tonne de PET, bouteille plastique pure, parce que c'est quasiment l'équivalent de granulé. Donc voilà, c'est la première notion. Et puis, j'ai une double casquette, vous avez compris, donc président de l'Institut National d'Économie Circulaire, dont référent au niveau de l'Europe, on travaille au niveau de l'Europe, hein, on est en train de monter en puissance au niveau de l'Europe pour porter cette approche française, mais je suis aussi parlementaire, et là, souvent, j'ai une petite image, pardon, mais je vais le dire, je leur dis, regardez de quel côté du canon du fusil vous êtes.
Oui, c'est dur. C'est...
Voilà, donc, on va continuer à... s'il n'y a pas de dialogue, moi, je fais des interdictions, je fais de la fiscalité, je trouve des majorités. Voilà. En ce moment, sur le plastique, la semaine prochaine, je rends une étude très dense qui aborde justement une trajectoire de très long terme pour sortir d'une société plastique-pétrole, pour aller dans un autre univers... avec quelques outils fiscaux, etc., une agence nationale du plastique que je propose de créer. Et ça fait 6 mois que je suis en dialogue. Je ne suis pas leur meilleur ami aux industriels du plastique. Et à chaque rendez-vous, ils commencent à comprendre de quel côté du canon ils sont. Donc, ils commencent à dialoguer.
Petite autre question avant de conclure, éventuellement. Oh, non, on a encore 2 minutes. Laisse-moi une petite marge de manœuvre, Béatrice. Mais si, on aura le temps. Laisse-moi 1 minute. Est-ce qu'il y a une autre question pour contredire Béatrice, s'il vous plaît? Faites-moi plaisir. Parce que sinon, oui, alors très bien, là-bas. Tiens, voilà. Yes. Merci beaucoup de m'aider. Et j'ai ton nom. Tu seras récompensé. Alors.
Oui, bonjour. Donc je suis étudiant à l'école, encore tout frais dans la filière. Je trouve ça super, toute réunion, cet engagement pour le RSE. Et je me demandais comment vous faites pour mesurer, pour noter, est-ce que vous vous dirigez vers un organisme commun extérieur qui puisse arbitrer, qui puisse finalement servir de référence pour comparer les actions des différentes agences et des différents membres du secteur? Voilà.
J'ajouterai avant la réponse que ce qui est devant nous, c'est l'État qui imposera 3 ou 5 ans un modèle de comptabilité extra-financière comme il vous impose un modèle de comptabilité pour vos structures.
L'Europe, il travaille pour 2022, donc les choses se mettent en place. On travaille aussi beaucoup avec les directions financières.
Votre question est extrêmement pertinente. Comment on sait vérifier qu'on a les mêmes outils de mesure entre deux structures pour éviter que l'une appuie un peu plus que l'autre et se mette un peu plus en avant que ce qu'elle n'est vraiment.
Et puis comme on mesure des choses qui sont très difficilement rapprochables. Donc ça va être aussi un point complexe.
Oui, la question est très intéressante maintenant. C'est vrai que chaque événement est un cas particulier. Il n'y a rien de comparable. Chaque agence est particulière. Il n'y a rien de comparable. Donc effectivement, c'est excessivement compliqué. Après, il peut y avoir des pistes. Il y a un certain nombre d'agences qui sont certifiées ISO 2021, dont on fait partie. Dedans, il y a des exigences de reporting et donc de monter des tableaux sur le reporting. Après, chacun, dans la norme ISO 2021, chacun y va après en fonction de ce qui l'intéresse. Les indicateurs à mettre dedans. Nous, on a mis des pourcentages, par exemple, d'achat responsable, sur une politique d'achat responsable. Donc, oui, c'est super intéressant. Maintenant, concrètement, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre.
Bien, merci. Je vais passer à une forme de conclusion. Tu avais incité, monsieur le député, à signer un engagement, une feuille de route sur l'économie circulaire, sur les entreprises de l'événementiel. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu comme évolution en un an?
La signature depuis...
La feuille de route qui s'affiche.
Voilà. Ce que j'ai vu, c'est que je suis impatient, parce que je compte, ça fait 6 ans. Alors, c'est vrai, il y a 6 ans, la première fois où je parlais d'économie circulaire dans l'hémicycle, j'ai plutôt été rabroué. Aujourd'hui, si vous ne le dites pas 3 fois dans la journée à l'Assemblée nationale, c'est que vous êtes out. Tant mieux. Mais je suis plus qu'impressionné de cette signature il y a un an, de la reprise et de la dimension aujourd'hui du nombre d'acteurs, de la volonté, du re-questionnement, du dépassement même de ce que j'avais pu dire il y a un an, qui est déjà has-been, qui est déjà obsolète, une envie d'aller plus loin, plus fort, plus vite. Des acteurs, ceux qui sont là, ce que j'avais vu à l'Assemblée nationale il y a 3-4 semaines, je ne sais plus quand est-ce que vous étiez venu. Et à ma connaissance, je ne le dis pas parce que je suis là devant vous, sincèrement, à ma connaissance, je ne connais pas de filière qui est prise et avance aussi vite. Et ma question en repartant, et mon travail, parce que je vais continuer à travailler avec vous, sera de trouver comment apporter dans d'autres filières, notamment de services, mais pas que, cet engagement, cette dynamique, ces résultats, cette vitesse qui fera que la France, parce que nous nous battons au niveau de l'Europe pour une véritable transformation en termes d'économie circulaire par rapport à d'autres pays qui sont, surtout ne changeons pas grand-chose et trions juste les déchets de notre modèle et ça ira très bien, nous disons il faut repenser, s'autoriser, imaginer. Et c'est vrai qu'en France, on a le French flair, on a le French touch, on a une particularité qui est très adaptée à l'économie circulaire. D'ailleurs, on dit que nous portons l'économie circulaire à la française au niveau de l'Europe. Et vous êtes ce fer de lance. Donc je n'ai que de dire que je suis impressionné, et plus que satisfait, et que je m'en inspirerai pour aller dans d'autres filières.
Merci. Alors, d'ailleurs, il y a d'autres